라디오 극장 강원팀
Il est président du collectif des défenseurs des consommateurs du Congo, Christophe Chibumbu Akatanda, est l'invité de Grand Témoin. Christophe Chibumbu, merci d'être venu.
Merci aussi.
Avec vous, nous ferons le point sur les droits des consommateurs congolais et comme d'habitude, nous ferons un clin d'œil à l'actualité. Commençons par parler de vous. Christophe Chibumbu Akatanda est né à Likasi, dans la province du Katanga. Au mois d'avril prochain, vous aurez 65 ans. Dites-nous comment on se sentait dans les années 50 et 60 à Likasi.
Formidable. Eh bien, merci pour la question. Et pour placer les choses dans leur contexte réel, parlons de Jadotville, c'est mieux. Parce qu'à ce moment-là, on se rapporte vraiment au temps. Hein. Eh bien, c'était formidable, comme je venais de le dire. Nous vivions comme des petits anges. Parce que des histoires comme ordonnance, on ne connaissait pas. Les histoires comme facture de la régie des eaux, on ne connaissait pas. Les histoires comme facture de la SNEL, à l'époque, là-bas, on appelait la SOGELEC, Société Générale d'Électricité, on ne connaissait pas non plus. Donc, nous vivions vraiment
en paisible citoyen.
Formidable, formidable.
Quel effet ça vous faisait d'avoir des parents qui travaillaient à l'Union Minière?
Eh bien, il y a aussi le revers de la médaille, je vous l'ai dit d'avance, hein, mais l'essentiel était que nous étions à l'abri des trucs désagréables. Vraiment à l'abri. Je vais vous donner un petit cas. Un frère était poignardé. L'arme a failli atteindre le cœur, la horte. Et mon père n'était qu'un ouvrier. Malgré le niveau très bas de la classe sociale à laquelle il appartenait, eh ben, on a fait venir de Colosie un spécialiste pour s'occuper de mon frère. Aujourd'hui, ce monsieur mourait d'hémorragie. Vous vous rendez compte?
C'est d'ailleurs toujours à Likasi, à Jadotville, que vous faites vos études primaires à Pamba.
Tout à fait, tout à fait. À l'Union Minière.
À l'Union Minière du Katanga, qui deviendra
Jekamine.
Ensuite, les secondaires, c'est à l'école Mutoshi, ex-Roué de Colouisi.
Voilà.
En option électricité.
Voilà.
Pourquoi l'électricité? Est-ce l'influence de l'Union Minière?
Bon, ce n'était pas tellement l'influence de l'Union Minière, c'est parce que nous avons commencé par l'ajustage et je ne me sentais pas très fort dans l'ajustage. Et comme on me voyait toujours trimballer un petit bout de fil, alors le prof de l'ajustage me disait, toi, tu ferais mieux de faire l'électricité. Alors ça a influencé un peu et quand il fallait prendre l'option, eh ben, j'ai pris l'électricité.
Vous avez dit tout à l'heure que votre père était ouvrier. Il faisait quoi à l'Union Minière?
Manœuvre. Il était au four électrique. Donc c'est un travail n'importe lequel, quoi. Aujourd'hui on lui dira tu feras, aujourd'hui tu feras ça, demain on lui dira tu feras ça, etc. Donc c'était un manœuvre.
Mais ça ne l'empêchait pas d'être bien payé.
Je vous assure, nous étions enfin, au ciel, je peux dire.
Je vous sens parler avec beaucoup d'éclat.
Non, on le regrette. Nous visions une vie, un rêve.
Alors que dire de la mode et de la musique de l'époque?
Ah, mon cher. D'abord, les parents, quand ils voulaient danser, nous étions leurs admirateurs. Et on sentait en eux les gens qui avaient du plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Et nous, c'était un beau spectacle. On regardait danser les parents chaque fois quand il y avait une petite manifestation, mariage, retrait de deuil, etc. Dans cette ambiance-là, il y a des choses qui prenaient naissance à nous. Petit à petit, eh ben, on était des mélomanes en puissance. Quoi.
Et par rapport à la coiffure, par exemple, c'était quoi la coiffure de l'époque dans les années 60?
La coiffure, moi, ma mère, pour éviter des problèmes, hein, ma mère préférait me raser. On se moquait un peu de moi, mais je me suis dit, bon, c'est mieux, parce que ceux qui avaient des cheveux, il y en a qui ne savaient pas les peigner, ou qui les peignaient mal, ça présentait mal.
Alors, devait les faire froid,
voilà,
compagnie.
Alors, moi, je me faisais toujours raser.
Jusqu'à ce jour, d'ailleurs.
Maintenant, je le fais moi-même, maintenant. voilà.
Radio Capi, grand témoin.
Il est président du collectif des défenseurs des consommateurs du Congo, Christophe Chibumbu Akatanda, est l'invité de Grand Témoin. En 1970, Christophe Chibumbu, vous devenez ingénieur des travaux météorologiques de l'Institut Royal Météorologique UCL en Belgique. Comment vous arrivez en Belgique? À la faveur d'une bourse ou quoi?
Bon, évidemment, à l'époque, le service météo était plus coiffé par l'Organisation Mondiale de la Météorologie, donc l'ONU. Alors, nous avons avons suivi d'abord la formation ici sur place, et comme on avait besoin des cadres, nous avons bénéficié de cet avantage-là, et on nous enverra en Belgique pour parachever nos études, et on nous regardait avec étonnement, il y en a qui croyaient que nous étions de la famille de Mobutu, parce qu'il y en a des privilégiés. Oui, nous avons posé la question, mais vous, votre famille est bien, pourquoi pas nécessairement? Mais si, puisque vous êtes ici, non, nous ne sommes ici parce que. Vous savez, j'ai connu un petit avantage pendant mon séjour là-bas. Le Jumbo Jet est arrivé en Belgique pour la première fois au mois de juillet. Et moi, je me trouvais à Zaventem. Cette année-là, il y a eu un coup terrible de mouvement des terroristes qu'on appelait à l'époque Septembre Noir. Ce jour-là, ils ont détourné un peu de 7 avions. Et c'est ce qui a fait que la sécurité à l'aéroport de Zaventem était telle que personne d'autre, en dehors de ceux qui étaient affectés au travail sur les tabacs, pouvaient s'y rendre. Les météos, bien sûr, aussi. Eh bien, vous vous rendez compte, j'étais le seul nègre qui me dirigeait vers cet appareil-là. Alors, les agents de la gendarmerie, ils disent, non, je suis météo. Vous, météo? Quand je sors ma carte, je dis, les météos. Quelques derrière moi, d'autres météos belges arrivaient. Je dis, si, il est avec nous. Alors, ça me faisait plaisir de me retrouver là, parce qu'il y avait une sécurité terrible compte tenu justement des. Parce que c'était l'année où on a fait beaucoup de coups.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré en météorologie alors que vous avez fait l'électricité aux humanités?
C'est vrai, à l'époque, moi, je voulais effectivement faire l'électricité jusqu'au bout. Mais quand nous sommes arrivés ici, à Léopoldville à l'époque, on nous avait dit, si vous allez sur cette voie-là, il y a beaucoup de chances de percer jusqu'en Europe. Parce que nous, nos objectifs, c'était arriver en Europe. Mais si vous allez sur cette voie-là, vous irez en Europe, mais beaucoup plus tard, avec les risques même de rater. C'est comme ça que nous sommes vivés. Surtout qu'on nous avait dit, attention, là, c'est chapeauté par l'ONU, l'Organisation Mondiale. Enfin, c'est une institution spécialisée de l'ONU, l'OMM. Alors nous avons dit, écoutez, on va par là.
Mais apparemment, vous n'avez pas beaucoup exercé, hein, cette métier.
C'est vrai, je ne l'ai pas beaucoup exercé parce que justement, il y a le dysfonctionnement de l'État que nous sommes en train de connaître jusqu'à aujourd'hui. J'arrive avec tout ce que j'avais comme bagage pour appliquer ça ici à l'aéroport de Djibi. Impossible. Vous savez, pour faire la prévision météorologique, par exemple, il y a des préalables. Vous devez avoir les observations horaires d'un certain nombre de stations. Mais si cela n'est pas rempli, vous allez taper à côté. Alors, quand j'arrive ici, je dis, quand il n'y a pas le minimum exigé par les normes, je ne fais pas de prévision. C'est comme ça qu'il y a des amis qui faisaient en se basant sur la climatologie, etc. Je dis, alors, à ce moment-là, qu'on ne fasse pas les observations, on se base seulement sur la climatologie, on fait la prévision. Hein? Donc, la climatologie, c'est pour guider un peu. Quand vous faites votre analyse, vous prenez maintenant la climatologie, les statistiques, etc., pour
vous
corriger. Vous corrigez, voilà. Maintenant, j'ai fait ça, mais avec la climatologie. Mais il y a des gens qui ont inversé. Ils ne s'occupent plus des observations. Maintenant, ils regardent seulement la climatologie. Mais alors, comme il y a eu chaque fois des dissensions entre moi et mes chefs, j'ai claqué la porte.
Vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous devenez également ingénieur des systèmes informatiques de l'École des Finances en 1976. Mmh. Qu'est-ce qui vous y pousse une fois de plus?
Bon, alors, quand j'ai claqué la porte, je suis allé à l'Otraco. Actuellement, on attend.
On attend, au Banque nationale de transport.
Voilà. Alors là, ils ont essayé de récupérer mes connaissances météorologiques. Hein. Et après, on a constaté qu'il y a eu carence énorme dans le monde informatique. C'est pour ça qu'on a recruté des gens avec un niveau supérieur pour former des ingénieurs. On créera cette école par la présidence. C'est comme ça que nous nous sommes fait inscrire. J'ai étudié tout en état agent au NATRA. C'est comme ça qu'après 2 ans, j'ai eu ce diplôme d'ingénieur système et tout a basculé. J'ai été affecté au service informatique au NATRA.
Alors, décrivez-nous un peu le secteur informatique au Zaïre en 1976.
Voilà. Chaque société avait son centre informatique où on traitait les données, quoi. Il y avait une structure qui coiffait tout ça. On appelait à l'époque COPIZ, Conseil Permanent de l'Informatique au Zaïre. Cette structure-là réunissant annuellement tous les responsables des centres informatiques pour arrêter une politique générale de l'informatique au Zaïre à l'époque. Alors, nous, comme nous étions agents en affaires dans un premier temps, nous n'avions pas beaucoup de droit au chapitre. Mais comme je ne m'entendais pas avec mon directeur informatique à l'ONATEUR, lui, il me contestait. Parce que quand je lui disais des choses avec certitude, il voyait à moi, c'est un orgueilleux qu'il fallait absolument casser. Une fois, il m'a même chargé, moi, de m'occuper de la propreté des couloirs, des trucs un peu comme ça. Moi, je dis, mais écoutez, monsieur le directeur, moi, je suis système. Il m'a demandé une fois, par écrit, une demande d'explication. On a trouvé, la nuit, quelqu'un est passé, il a trouvé que dans tel bureau, il y avait de la lumière. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire, qu'il y ait de la lumière ou pas dans tel ou tel bureau? Chacun doit éteindre avant de. Donc, bref, il me créait des problèmes. Finalement, il a demandé qu'on me licencie. On m'a mise à la porte, mais c'était un bien pour moi. Parce qu'à la présidence, on me récupère, on dit, écoute-toi, tu dois être avec nous. C'est comme ça que nous avons continué à siéger au Copis.
Et l'informatique, à l'époque, c'était de grosses machines.
Formidable, mon cher. L'ordinateur, quand on dit ça, l'ordinateur, c'est une histoire qui te prend une salle de 10 mètres sur 40 mètres. Hein. Vous avez des dérouleurs de bandes, des disques, des bandes, plutôt des armoires à disques. Et vraiment, c'était une petite usine. Une petite idée. Formidable.
Alors, après l'ONATRA, vous vous lancez dans les affaires privées. En quoi consistaient ces affaires?
Bon, j'étais sous-traitant de la bouquine au sein des brasseries et limonaderies. C'est-à-dire, j'ai récupéré les téchons des bouteilles que je
remettais. À travers les rues,
pas à travers les rues. J'étais carrément dans les brasseries et limonaderies. Donc, à l'époque, c'était CIB, qu'on appelait Compagnie industrielle des boissons Coca-Cola. Il y avait Pepsi-Cola. Les boissons nationales, il y avait Unibra, il y avait Bralima, il y avait SBK. Et après, j'ai commencé même à m'introduire dans les industries pharmaceutiques parce que là aussi, on manipulait les bouteilles. Alors, j'ai récupéré ces déchets-là et que j'ai donné à la bouquine comme matière première. Et en plus, j'étais le sous-traitant de la Socidaire au sein de l'ONATRA. Donc, j'ai récupéré
la mitraille.
Oui, que je remettais à la Socidaire. Donc, voilà.
Et t'as rapporté?
Mais c'est grâce à cela que j'ai pu envoyer mes enfants en Europe. C'est grâce à cela que je paraissais comme un monsieur
respectable.
Tout à fait. Hein? Et c'est grâce encore à cela que, au sein de la Fédération des entreprises du Congo, j'ai été élu, et cela pendant 3 mandats comme mandataire spécial.
De 90 à 99.
Voilà.
Radio Capine, grand témoin.
Il est président du collectif des défenseurs des consommateurs du Congo, Christophe Tibumbu à Katanda, et celui que Grand Témoin vous fait découvrir. Christophe Tibumbu, c'est depuis 2003 que vous présidez le collectif des défenseurs des consommateurs du Congo. Quel est l'objectif de cette ONG et qui en sont les membres?
L'objectif du collectif, c'est de dénoncer tous les abus dont nous pouvons être victimes dans tout ce que nous consommons comme produit, y compris les services. Et c'est très, très, très large. Tout ce qu'il y a comme produit consommable, nous sommes derrière pour voir si les normes sont respectées ou pas. Alors, en ce qui concerne les membres, beaucoup se sont posé des questions. Maintenant, comment il va faire? Est-ce qu'il va faire de porte en porte pour nous? Eh bien, l'Esprit du Seigneur nous a un peu inspiré. Nous avons négocié l'adhésion des ensembles, donc les églises. L'église du Christ au Congo, l'église kimbanguiste, l'église catholique, les églises de réveil, etc. Donc là, maintenant, je suis en train de donner la main à la Fédération des entreprises du Congo, à l'Ordre des médecins, à l'Ordre des avocats, à l'Ordre des pharmaciens. Nous allons former un tout homogène et très puissant.
Comment vous définissez le consommateur?
Là, vous m'avez posé une question pertinente quand même. Hein? Définir le consommateur, à mon avis, c'est celui qui prend un produit fabriqué par une tierce personne pour en faire un usage. Je crois que ça peut se résumer un peu comme ça. Maintenant, l'usage, c'est manger, c'est habiller, c'est etc. Bon, je crois que définir comme je le fais là, ça colle un peu partout.
Concernant les produits consommés en RDC, quel constat votre ONG a-t-elle fait?
Ah, là, c'est vraiment la mer à boire. Un constat désastreux. Désastreux. Je prends les domaines, je peux appeler ça domaine essentiel, l'eau et l'électricité. C'est grave. D'abord, en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en permanence exposés à un danger réel dans cette ville. Et si telle est la réalité dans cette ville, je vous demande de deviner ce que peut être la chose à l'intérieur. La SNEL est incapable de faire face à cette situation. C'est pourquoi nous avons écrit au gouvernement d'intervenir. Nous sommes en danger de mort. Les gens meurent.
Quelle est cette situation?
Nos rues, avenues et artères sont issues de câbles mal isolés ou presque pas du tout. Il y a des endroits où vous allez avoir peur même de vous y engager. Tellement c'est à nu. Vous avez des endroits où le câble est nu sur plus de 20 mètres, par exemple. Hein? Je suis allé un jour m'incliner devant une dépouille mortelle chez un pasteur. Eh bien, j'ai marché en regardant tout le temps un côté là où il y avait des câbles. Parce qu'à ce moment-là, c'est rouge. Même devant les entrées de certaines parcelles.
Oui, mais là, vous acculez la semelle, mais il y a aussi les consommateurs eux-mêmes qui posent problème avec les raccordements frauduleux. Qu'est-ce que vous dites de tout ça?
C'est vrai. Je ne peux pas ne pas regarder dans cette direction, comme vous le dites. Mais les responsabilités sont à partager. Et moi, je vous le dis, sans peur d'être contredit, le grand responsable, c'est l'État. Et par lui, la SNEL. Parce que, regardez, si moi je suis en difficulté quelconque, difficulté qui est censée être résolue par vous, SNEL, vous ne le faites pas. Cette difficulté peut s'empirer d'abord d'elle-même, sans que je n'y contribue. La difficulté, ça peut être quoi? Un câble qui brûle sur la voie publique. Moi, je signale ça à la SNEL. Oh, il n'y a pas de câble pour remplacer. Ce morceau va continuer à brûler. Hein? Moi, je n'ai rien à faire, mais ça continue à brûler. La SNEL est en train de tourner aujourd'hui comme un ligablo, alors que c'est la Société Nationale d'Électricité. Donc,
mais concrètement, qu'est-ce que le collectif des défenseurs des consommateurs du Congo pour pallier à cette situation? Avez-vous déjà rencontré les responsables de la SNEL?
J'ai déjà rencontré les responsables de la SNEL, le pauvre Ina Kessemer. C'est pour vous dire que, en dehors du possible, il ne sait rien faire. C'est pourquoi nous avons adressé une lettre au pouvoir, le gouvernement. Parce que le gouvernement a la possibilité de faire ce qui doit être fait. Mais on est distrait.
Et quelle réponse vous a réservé le gouvernement?
Ils sont distraits, ils n'ont pas encore répondu, nous avons rappelé encore. J'ai adressé une lettre d'abord depuis la Grande-Bretagne, nous sommes au mois de mars de l'année passée. J'arrive ici, je rappelle cette lettre. Récemment là, j'ai déposé des lettres, on ne réagit pas. Mais par contre, moi je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Si vous écrivez une lettre dans laquelle vous injuriez une autorité, dans les 20 minutes qui suivent, on vous arrête. Parce que là, ça porte vite. Mais quand vous dites, il y a un danger, veillez intervenir pour épargner, etc. Bon, on va dire, écoute, bon, les gens n'ont qu'à faire attention. Hein.
Encore une fois, quel effort le collectif des défenseurs des consommateurs du Congo fait-il en rapport avec l'éducation des consommateurs par rapport aux biens qu'ils doivent utiliser?
Oui, c'est vrai. Là, c'est là que nous devons composer de façon vraiment intime avec vous, les médias. Il faut une sensibilisation. Réveiller les gens, qu'ils sachent qu'ils ont plus intérêt à regarder les choses, les soigner et en faire le bon usage plutôt que de faire ce qui est en train de se faire. Ça nécessite la contribution des médias que vous êtes. Voilà pourquoi je demande sans limite que les médias composent avec nous. Il faut.
Il y a aussi plusieurs cas, par exemple, j'en citerai d'autres qui concernent les consommateurs. Il y a des cas de crédits téléphoniques que l'on perd, des publicités des brassicoles qui sont diffusées à temps et à contre-temps, des laits de beauté qui pilulent sur le marché.
Oui.
Que doit faire le consommateur pour vous saisir?
Eh bien, en ce qui concerne les cas, par exemple, je vous dis que personnellement, hein, je suis très heureux d'avoir vécu moi-même. J'ai découvert la tricherie dans les télécommunications, personnellement, en pleine Grande-Bretagne. J'ai acheté une carte. Je suspectais déjà quelque chose depuis le départ. Alors, j'ai essayé de suivre ça de très près, parce que nous sommes très regardants, nous. Hein. Alors, dès que je me suis dit, il y a plus de chances que ce soit ce que j'ai craint, eh bien, j'ai acheté une carte. On me dit, vous avez un crédit de 124 minutes, ça fait 2 heures et 4 minutes.
En Grande-Bretagne.
En Grande-Bretagne. J'achète cette carte. Je prends contact avec un correspondant ici. Eh bien, j'arrive à peine à la 58e minute. Donc, je n'ai même pas fait une heure. On me dit, votre crédit est épuisé. J'ai une correspondance à ce sujet et j'ai saisi mon gouvernement. Parce que j'ai été victime. Hein? J'ai saisi mon gouvernement et j'ai saisi d'autres organismes, je pense en Grande-Bretagne.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu?
Ils nous ont dit, eux là-bas, qu'ils ne protègent que les consommateurs britanniques. Donc j'ai dit, moi je vais demander à mon pouvoir, mon gouvernement, de me protéger aussi. Parce que vous rendez compte, si un Américain se fait gifler dans les rues de la capitale ici, il rentre aux États-Unis, il se prend au Congrès, notre gouvernement aura une demande d'explication. Gentil, mais quand même une demande d'explication. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas nous protéger par notre gouvernement?
Yeah, me more manga, nah.
Bombo, président du collectif des défenseurs des consommateurs du Congo. Vous le savez, c'est depuis le mercredi 16 janvier dernier que les médecins ont levé leur grève. C'est une décision du bureau exécutif du syndicat national des médecins. Selon le docteur Mankoy, président du SINAMED, cette décision fait suite aux avancées significatives réalisées dans les négociations entre les médecins et le gouvernement, et aussi à la demande expresse du chef de l'État. Les médecins demandent au gouvernement de respecter à son tour ses engagements. Je vous invite à suivre le docteur Mankoy Badjoki, joint par Jeff Ngoy, après quoi vous allez réagir.
Les avancées significatives ont été réalisées à la demande expresse du chef de l'État, dont l'intérêt supérieur du malade est dans un élan patriotique. Le bureau exécutif national du syndicat national de médecins annonce à l'opinion nationale et internationale la décision de sursoir au présent mouvement de grève et espère que le gouvernement respectera ses engagements. Et le gouvernement s'est engagé à corriger les erreurs et à réaliser les promesses qui nous ont été faites.
Quelles sont ces promesses?
Les promesses, il y a d'abord le problème de réajustement de la prime de risque, il y a le problème de corriger le barème du salaire de la fonction publique avec effet rétroactif. Et il y a le problème de programmer comment on doit liquider progressivement les arriérés de primes de risque.
Christophe Tibombo, vous avez une réaction puisque et les malades et les médecins font partie des consommateurs.
Tout à fait. De prime abord, j'envoie un message d'encouragement à l'ordre des médecins, à qui nous avons adressé d'ailleurs une lettre pour un protocole de partenariat. Ils ont l'encouragement et la solidarité du collectif des défenseurs des consommateurs du Congo sans faille. Nous sommes avec eux. C'est une aberration que l'État ait arrêté des dispositions par écrit avec l'ordre des médecins et qu'ils prennent les pieds pour les mettre en exécution. C'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement de l'État congolais.
Et en même temps, ce sont d'autres consommateurs, les malades,
qui
payent les frais.
Voilà. Et s'il y avait les enfants d'eux, je mets point d'interrogation, point de suspension, les choses ne seraient pas allées si loin.
Christophe Tibombo, allons cette fois en province orientale où une hausse généralisée des prix est observée depuis quelques jours sur le marché de Kisangani. Les produits de première nécessité et de consommation courante sont les plus concernés. Le panier de la ménagère en souffre sérieusement pendant que le ministère provincial de l'économie entend poser le problème au conseil des ministres pour maîtriser la situation. Dans ce genre de situation, que peut faire le collectif des défenseurs des consommateurs du Congo, puisque ses membres, les consommateurs, sont en danger?
Vous savez, la question est lourde de conséquences. De ce côté-là, c'est on appelle l'arrière-pays. Il se passe des choses drôles chez nous ici, à l'FDC. Nous sommes en train de nous époumoner sans réserve pour demander à ce que les membres nous donnent des informations. Vous-même, les médias, vous ne serez pas informés si vous n'êtes pas vous-même. Pour mieux informer, vous devez être d'abord informés par les sources sûres. Vous savez qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils ont droit à faire ceci. Ils ne savent pas. Quand moi je leur dis, allons dans ce sens. Vous vous rendez compte? Alors il faut éduquer, d'abord les réveiller, les éduquer, les sensibiliser.
Mais le collectif n'est pas représenté en province. Comment vous allez éduquer ces populations?
Vous avez raison de le dire et je le reconnais effectivement. Nous ne sommes pas encore représentés en province. Mais c'est une petite affaire. En ce sens que, ayant composé avec les églises, pour l'église du Christ au Congo par exemple, ça fait 63 communautés qui ont des ramifications à l'intérieur là-bas. L'église Kimbangiste a des ramifications. Donc ça serait une petite affaire. Il faut d'abord que nous soyons bien présents sur le terrain ici à Kinshasa, puisque les gens traînent encore les pieds ici. Qu'on réveille d'abord les gens, qu'ils soient éveillés, et puis qu'on leur donne l'information, qu'on les conscientise et qu'on les responsabilise. C'est de cette façon-là que nous allons, par effet d'entraînement, nous retrouver à l'intérieur du pays.
Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Christophe Tibombo, revenons à Kinshasa, où la loi sur l'impôt du chiffre d'affaires a été votée à la plénière du 14 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Cette loi modifie certaines dispositions de l'ordonnance loi du 5 décembre 69 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires. La loi consiste à relever le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires de 13 à 15% aussi bien à l'importation qu'à l'intérieur. Ainsi, tous les produits importés doivent désormais bénéficier du même traitement que les produits locaux. Selon les députés nationaux, la proposition d'augmenter ce taux de l'impôt a été motivée par le souci d'accroître les recettes du trésor public. Christophe Tibombo, président du collectif des défenseurs des consommateurs du Congo, quel est le bénéfice du consommateur dans ce genre de loi?
Eh bien, il n'y a pas de bénéfice. Moi, je vous signale, contrairement à ce qu'on vient de faire, nous avons écrit depuis la Grande-Bretagne et nous avons rappelé cette lettre récemment ici. Nous demandons au gouvernement de maintenir la taxe sur chiffre d'affaires à 3% en ce qui concerne l'eau et l'électricité. Quand vous avez consommé une quantité d'eau qui donne droit à la régie de vous facturer 3000 francs. Mais à cela, il faut qu'on ajoute la taxe sur chiffre d'affaires. Nous demandons, parce que maintenant on vient de la passer à 15, nous demandons au gouvernement de ramener cette taxe à 3 pour l'eau et l'électricité. Parce que de 1, l'eau, une des résolutions des Nations Unies demande à ce qu'on ne considère pas l'eau comme n'importe quelle marchandise. 2, la République démocratique du Congo est en pleine décennie de l'eau potable pour tous. J'estime que c'est une aberration que pendant cette période qu'on surtaxe l'eau, surtout qu'on sait que la plupart des consommateurs, c'est des fonctionnaires mal payés s'ils le sont, c'est des chômeurs, c'est des retraités, etc. Donc la meilleure politique du gouvernement, c'est de mettre un peu de l'eau dans son verre.
Nous allons clôturer cette émission, Christophe Tshibumbu. Quel message pouvez-vous adresser à tous les consommateurs qui vous suivent?
Vraiment, c'est une bonne opportunité pour nous, pour demander à tous les consommateurs, tous alors sans exception, y compris le Premier ministre et le Président de la République d'ailleurs, qu'ils soient avec le collectif. Soyons un pour la meilleure efficacité. Parce qu'autrement, nous allons nous retrouver d'un côté, pendant que les autres sont de l'autre côté, ils vont nous dire, où est-ce que vous en êtes avec votre collectif, alors que c'est notre collectif à nous tous. Si nous réussissons à gagner la bataille pour la réduction de la taxe, tout le monde va être bénéficiaire.
Il est président du collectif des défenseurs des consommateurs du Congo, Christophe Tshibumbu à Katanda, et celui qui est grand témoin réservé pour vous à la réalisation Kéline Kouté et à la technique Héritier Sidiakala. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez aussi voir les photos des invités de grands témoins. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.